Nous avons ce psaume 27, j'espère que beaucoup l'ont lu. Déjà au début de ce culte, j'ai été interpellé par différentes petites choses. Et j'ai feuilleté ma Bible et je suis tombé dans un autre psaume, le psaume 107. Et ce qui m'a frappé dans ce psaume 107, c'est la répétition de cette phrase « Et il les délivra de leurs angoisses ». Plusieurs fois. Et il les délivra de leurs angoisses. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens tellement timides qu'ils en sont paralysés? La timidité qui vous paralyse. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes du genre craintif? Selon les circonstances, là aussi, ça peut entraîner une forme de paralysie. Y a-t-il parmi nous des personnes du genre angoissé? Ça aussi, ça peut nous paralyser. Dépressif. Ça existe, même parmi les chrétiens. C'est pas toujours chez les autres. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui chaque nuit font des cauchemars, qui ont peur? Ça existe aussi. Que ce soit parmi les jeunes, que ce soit parmi les moins jeunes. Et ce psaume nous montre un homme qui semble avoir vaincu tout cela. Psaume 27. Dans le commentaire que j'ai lu, il est noté que ce psaume est divisé en deux parties distinctes. Une première partie, du verset 1 au verset 6, qui manifeste cette foi victorieuse, libérée, cette confiance en Dieu qui a chassé la crainte, qui bannit la crainte. Puis la deuxième partie, c'est du verset 7 au verset 14, présente plutôt un combat spirituel, une supplication, une prière intense, où le psalmiste se trouve dans une situation, j'allais dire presque d'angoisse. Comment se fait-il qu'il démarre par un chant de victoire et aboutit à un sentiment de combat? On comprendrait mieux l'inverse, être dans le combat et puis aborder la victoire. Mais ici, c'est tout à fait le contraire. Et ceci nous montre que les circonstances de la vie, nous ne pouvons pas les prévoir. Même la personne qui est pleine de foi, qui marche avec le Seigneur, les circonstances de la vie peuvent le faire passer dans une crise inattendue. Et ceci nous donne un premier enseignement, qu'il nous faut toujours veiller pour entretenir notre foi, même si tout va bien. Pour cela, il nous faut écouter la parole de Dieu comme on lit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Dans Matthieu 26, déjà, le Seigneur parle. Alors, on va feuilleter notre Bible aujourd'hui en partant de ce psaume 27. Matthieu 26, verset 41 Il nous est dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, ici, en regardant les deux parties de ce psaume 27, nous pouvons dire, oui, nous pouvons démarrer par une vie avec une foi victorieuse. Mais cela ne nous permet pas de nous endormir. D'autres passages nous parlent de l'importance d'être sur ses gardes. Mais prenons l'ordre normal de ce psaume. Dès le début de ce psaume, David, le psalmiste, nous parle de sa confiance en Dieu. Il dit, attendez, je me trompe de page dans ma Bible. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Dans tout le psaume, en particulier la première partie, David sait que la protection divine le met à l'abri de toute crainte, de peur, d'angoisse. C'est bien de le savoir. Mais il faut se mettre dans une situation où on est dans cette protection. C'est pour cela que nous voyons qu'il désire ardemment passer sa vie dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, être conscient d'une chose et d'en être éloigné, et d'être conscient d'une chose et d'entrer dans le plan de Dieu. Là aussi, c'est une leçon pour nous. David dit que la protection est dans la main de l'Éternel. Mais c'est bien beau de le savoir. Il faut entrer dans le plan de Dieu pour vivre cette... Alors il dit, je désire ardemment. Je désire vivre éternellement dans la maison, donc toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il y a d'autres passages dans l'évangile de Jean, par exemple, dans ce chapitre du cep et des vignerons et des sarments. Jean 15, par exemple. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Cette place d'aller, j'allais dire, d'aller habiter avec Dieu. Jésus l'enseigne aussi. David sait aussi qu'il y a des dangers pressentis, non encore arrivés, mais qui va venir. Qui est encore loin. Mais cela provoque aussi de l'angoisse. Combien de fois il nous arrive en disant, tiens, telle personne va arriver aujourd'hui me rendre visite. Oh là là. Rien qu'en y pensant, on est déjà dans un état de crainte, de colère, ainsi de suite. Et même dans cette situation-là, David dit en lui-même qu'il est confiant. Et pourquoi ? Parce que dans le passé, il a vécu déjà l'expérience d'avoir été libéré de l'angoisse par le Seigneur. Et cela, ce que j'appelle la foi expérimentée. Il y a des gens qui ne vivent que sur l'expérience. Mais l'expérience n'est pas un point solide pour notre vie. Mais si le Seigneur nous permet d'avoir des expériences, ces expériences nous permettront de vivre plus victorieusement d'autres expériences par la suite, en s'appuyant sur le Seigneur. David savait cela. Alors, déjà on a souligné trois enseignements. Ce n'est pas parce que j'ai une foi victorieuse que je dois m'endormir. Je dois me replonger dans cette prière persévérante, vivre en relation avec le Seigneur. Deuxième chose, si nous savons que la protection est dans la main du Seigneur et sous la grâce du Seigneur, cela ne veut pas dire que nous devons rester éloignés. Nous devons entrer dans le plan de Dieu. Troisième point. Quand nous prévoyons quelque chose qui peut nous déstabiliser, faisons confiance en Seigneur. Mais pas d'une manière vague comme cela. Mais rappelons-nous ce qu'il nous a déjà fait. C'est la foi expérimentée. Alors, c'est à cause de cela que David peut dire que l'Éternel est son salut. Dans d'autres versions, il est question de ma délivrance. Il peut le dire. Et juste avant le psaume 27, quelques pages en arrière, nous avons le beau psaume 23. Au verset 4, qu'est-ce qu'il est dit ? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David pouvait le dire, il l'a expérimenté. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit au début. Est-ce que je suis du genre super timide, craintif, angoissé, colérique ? Toutes ces situations-là peuvent m'entraîner à une forme de paralysie face à une situation quelconque. Eh bien, ces paroles de David nous appellent à nous rappeler une chose, que nous pouvons vivre la libération de nos découragements répétés quand nous nous mettons dans le plan du Seigneur, dans la maison du Seigneur, ainsi de suite. Dans Éphésiens 6, par exemple, vous connaissez bien les armes que le Seigneur nous a données. Éphésiens au chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La parole de Dieu nous encourage à saisir les moyens qu'il met à notre disposition pour faire face à ces attaques, à ces épreuves, à ces situations où l'angoisse peut nous saisir. Le verset 16 de ce chapitre 6 d'Éphésiens, il nous y dit : prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons démunis. Cela veut dire aussi qu'il y a des situations qui sont naturelles chez nous et avec son aide, nous pouvons retrouver l'équilibre. L'Éternel est mon salut, ma délivrance, dit David, en toute confiance. Mais juste avant ça, il dit, l'Éternel est ma lumière. Ça ne vous fait pas rappeler les paroles de Jésus ? Dans Jean 8, par exemple, verset 12, où il est dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quelle importance, la lumière ! Le Seigneur veut que nous soyons, nous sachions où nous allons, c'est-à-dire en pleine lumière. Combien de personnes font appel à l'occultisme pour essayer de voir plus clair dans leur avenir? Mais le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Je sais où vous allez être. Je vous ai préparé une place. C'est cette confiance qui apporte la délivrance, la foi dans le Seigneur, en l'Éternel. Mais attention, attention, là encore. Tout à l'heure, on a dit, c'est bien bon de connaître que en l'Éternel, nous avons la protection. Si je n'entre pas dans son plan, je rentre dans sa maison, si je ne désire pas vivre avec lui. Il faut y entrer, il y a une condition. Et ici, la confiance, notre confiance en la délivrance divine implique aussi une discipline de vie. C'est-à-dire une marche quotidienne à la suite de Jésus. Nous avons lu tout à l'heure Jean 8, 12, « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. » Mais le verset du chapitre 10 et encore Jean 10 verset 11, où Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous connaissez tous le travail d'un berger. Il prend soin, il protège ses brebis et il les conduit. Donc nous sommes appelés à suivre ce bon berger. Si nous voulons bénéficier de la protection et de la libération du Seigneur. Voilà encore quelques enseignements à souligner. Et puis, David parle de la maison de l'Éternel. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et on va lire en parallèle le psaume 23 encore et le verset 6 cette fois-ci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Entrez dans la maison de l'Éternel, entrez dans, je dirais, le plan de l'Éternel, c'est entrer dans un espace de bonheur. Alors, dans toujours le chapitre 27 maintenant, qu'est-ce que David espère en entrant dans la maison de l'Éternel selon le psaume 27? Nous avons vu le psaume 23 où il est dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il parle du bonheur. Alors il va l'exprimer autrement ici dans ce psaume 27. Dans le verset 4, il est dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler. la magnificence de l'Éternel. Dans une autre version que je lis, il est dit la beauté de l'Éternel. Contempler. Je ne sais pas comment je pourrais saisir cela. Mais si nous entrons dans la présence de Dieu, si nous voulons jouir de cela, contempler la beauté, la magnificence de l'Éternel, c'est lui rendre un culte pour ce qu'il est. Et la joie, le bonheur et la joie m'accompagneront, dit le psaume 23. Et ici, dans cela, il dit, voilà, quand je suis dans la maison de l'Éternel, je ne peux que rendre un culte à Dieu en contemplant la magnificence, sa magnificence, en contemplant sa beauté. Vivre l'émerveillement, l'admiration. Mais pour pouvoir vivre cela, il faut entrer dans le plan de Dieu. Ce n'est pas avec ma raison de l'extérieur en disant « Toi avec ta religion dit ceci, ceci. » Il ne s'agit pas là d'une religion, mais d'une intimité avec Dieu. Donc rendre un culte. Ce qu'attend David en vivant dans la maison de l'Éternel, c'est de lui rendre un culte dans l'émerveillement. Toujours ce verset 4. Et pour admirer son temple, admirer son temple. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais j'ai l'impression que déjà il est dans l'émerveillement de la présence de Dieu, mais il est aussi admiratif par la découverte de l'environnement de Dieu. Et on peut penser à cet environnement qu'est le royaume des cieux. Entrer dans le plan de Dieu, dans l'environnement de Dieu. Ce sont des mots peut-être qui ont des sens difficiles à apprécier. Mais il veut non seulement contempler la beauté de l'Éternel, mais admirer son temple. Et il continue. Verset 6. Il dit, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Offrir des sacrifices, c'est rendre un culte à Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous dit que nous sommes appelés à offrir notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Dans Romains 12. Verset 1er. Un sacrifice agréable à Dieu. Nous n'avons pas d'autre chose sinon peut-être nos mains vides. Offrir un sacrifice à Dieu. Il était là aussi pour être totalement au Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ce que dit Paul. Dans Hébreux au chapitre 13, verset 15, par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Contempler, admirer, offrir des sacrifices. Et vous avez remarqué que ces sacrifices sont offerts au son de la trompette. On y voit là la joie. Et il n'a pas fini. je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Le fait d'être dans la maison de l'Éternel, il est là non pas seulement pour admirer, contempler, offrir des sacrifices, mais il est là aussi pour chanter et célébrer l'Éternel. Combien la louange par le chant manifeste la joie. Le psaume 40, par exemple, nous dit, verset 4, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ont eu de la crainte, ils se sont confiés en l'Éternel. Dans Colossiens 3, verset 16, nous pouvons lire que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. La louange. Alors, reprenons. Je demande à l'Éternel une chose et je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Et en écho au psaume 23, verset 6, il dit « Et le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel toute ma vie. » Et ce qu'il espérait là-dedans, c'est le culte, l'adoration. Exprimer de manière différente la contemplation de la beauté de l'Éternel, l'admiration de son environnement, l'offrande des sacrifices de louange et le chant de joie pour célébrer Dieu. Est-ce que nous pouvons faire cela? Quelle dimension avons-nous en cela? Mais pour cela, que cela se fasse, entrons dans la présence et dans le plan du Seigneur. Voilà ce qu'il attendait donc pour une partie du fait d'entrer dans la maison de l'Éternel. Le deuxième point, au verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Alors là, nous revenons dans le principe de la protection. Il me protégera. Demeurer en lui, c'est se mettre sous sa protection. Nous avons vu tout à l'heure que Jésus est le bon berger. Suivre Jésus, c'est se mettre sous sa protection. Car par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, dit-il dans Jean 15, dans l'histoire du cep et des sarments. Et le verset 4 du psaume 23 que nous avons lu tout à l'heure nous dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il me protégera, il me cachera. Et la suite encore. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Il m'élèvera. Il y a des personnes qui sont toujours dans la victimisation. Je ne sais pas si c'est français. Toujours se sentir victime. Dès que quelqu'un dit quelque chose, par la susceptibilité, on baisse la tête. Des vaincus d'avance. Alors, là, le Seigneur va positionner son enfant, le rend digne. Digne pour ce qu'il est, non pas parce qu'il porte des Nike aux pieds. Il le rend digne, même si son travail est méprisé par les autres. Il le rend digne parce qu'il est l'objet de son amour. Il l'élèvera. Il l'élèvera sur un rocher, et le rocher, c'est Jésus. Je reviens toujours sur le psaume 23 où il est dit au verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi. Je fais face à mes adversaires. Je ne suis pas sous la table, je suis devant mes adversaires. Et ma table est comblée. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La dignité que le Seigneur donne quand on est dans son plan, dans sa volonté. Voilà ce qu'attendait David en désirant vivre dans la maison de l'Éternel. Voilà la première partie de ce psaume. Riche, hein? Protection, joie et tant d'autres. Quand nous abordons la deuxième partie où nous voyons la supplication, ici l'assurance de la foi fait place à un appel au secours. C'est-à-dire que une foi victorieuse n'exclut pas le combat. Ça aussi, il faut qu'on se rappelle. Ce n'est pas parce qu'on a une grande foi qu'il n'y a pas combat. David crie à l'Éternel, lui demande de l'écouter, de l'exaucer. C'est normal. On est dans un combat, on demande au Seigneur de nous aider. Et il ajoute, verset 9, « Ne me cache point ta face. » Il y a quelque chose qui était très intéressant au verset 9. Mais qu'est-ce qui pourrait cacher la face de l'Éternel à David? Qu'est-ce qui pourrait... Seigneur, je ne te comprends plus. Je suis sec. Je ne sais pas où aller. Je suis malheureux, je suis chargé. Ça arrive aux chrétiens dès ces moments-là. Et Isaïe 59 nous répond. Il nous dit au verset 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » David en est conscient. Il se passe quelque chose là. Alors David prend soin de sonder son cœur pour qu'aucun élément ne vienne faire obstacle à sa prière. Sa conscience même lui parle. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. La place de la conscience, les amis. Dieu utilise souvent notre conscience pour nous interpeller. Le Saint-Esprit est là. Si nous ne sommes plus sensibles à cela, posez-vous une question. Ça veut dire que je ne sens plus rien. Je n'expérimente plus l'interpellation de Dieu. Mais ici, quand on est dans le plan de Dieu, même s'il y a ce temps où Dieu semble être loin, l'Esprit Saint touche notre conscience et il dit « Cherchez ma face ». Le psaume 26, verset 2. Le psalmiste, là encore, utilise un terme que nous voyons déjà dans le psaume. Je pense qu'il est dans le psaume 139. Mais ici, oui, le psaume 139, verset 23. Mais ici, dans le psaume 26, il est dit « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Le désir d'être purifié par Dieu, d'être éclairé par Dieu. Déjà, au verset 1er, il dit « L'Éternel est ma lumière. » Et il dit ici « Ne me cache point ta face. » Et nous venons voir le lien entre le fait d'avoir l'Éternel qui met le rideau, je dirais. Mais David en est conscient. Il ne veut pas rester là. Et c'est ça le plus important. Nous ne sommes pas des gens parfaits, purs, sans péché, sans tâche. Non. quand l'Éternel met le doigt sur quelque chose, avouons-le et repartons de bon pied. Dans ce combat, David est confiant, même s'il dit « Ne me cache pas ta face ». Il est confiant parce qu'il sait que la bonté de l'Éternel dépasse l'amour de ses parents. Et vous voyez ce passage dans le psaume 27 où il parle de son père et sa mère qui pourraient l'abandonner, mais que c'est le Seigneur qui l'accueille. David le sait. David sait aussi qu'il est assuré de l'accueil de son Dieu, même si ses parents sont capables de le rejeter. Il est sûr aussi de voir la bonté de l'Éternel. Le verset 13. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !» La bonté de l'Éternel se manifeste déjà ici-bas. David reste conscient. Et à travers ces épreuves, David trouve même une occasion de 1. Progresser avec son Dieu, versets 11 à 12. Et vous vous rappelez de ce que dit Jacques au chapitre 1er, face aux épreuves? Jacques, chapitre 1er, la lettre de Jacques, chapitre 1er, au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ici déjà, là, David déclare déjà que les épreuves, les combats, c'est pour sa formation personnel. Donc, progresser avec Dieu, les versets 11 à 12. Deuxième chose, il dit, ces épreuves, c'est mon combat me permet de tester ma résistance, tenir ferme par une prise de position. Verset 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Dans l'autre version que j'ai lue, il dit attends-toi à l'Éternel. Prise de position. Avez-vous eu l'occasion de tester votre résistance? En physique, on teste la résistance de certains matériaux, ou en chimie. Il paraît que les jouets que nous achetons sont testés avec des machines pour les voir leur résistance. Et oui, le Seigneur ici apprend à David que les épreuves servent aussi, non pas seulement pour notre formation, mais aussi pour tester notre résistance. C'est vrai qu'à la fin de ce, au verset 14, David semble parler à lui-même, mais il s'adresse aussi à nous. Donc, en conclusion, il faudrait qu'on en prenne compte pour notre force spirituelle. Espère, attends-toi à l'Éternel, demeure ferme. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, vous porterez du fruit. Jésus nous appelle à demeurer en lui. Alors, quelques rappels, quelques leçons. Une foi même victorieuse doit être entretenue par une vie de prière. Elle n'exclut pas le combat. Les combats sont des occasions pour exprimer sa foi dans la patience, progresser et tenir ferme. Demeurer dans la présence de Dieu ou en Christ nous met sous la protection divine et en particulier face au découragement et la crainte. Vivre la délivrance de l'Éternel développe notre foi, mais cela implique une vie d'obéissance. Rendre un culte à Dieu, c'est contempler sa gloire, admirer ses œuvres, lui offrir des sacrifices de louange, le célébrer par des hymnes et des chants, c'est manifester la joie d'être en sa présence. Voilà quelques remarques concernant ce psaume 27, et je dois vous dire qu'il y a d'autres choses sûrement que je n'ai pas dites aujourd'hui, mais déjà c'est déjà beaucoup, que ce soit dans l'expression de la confiance, dans l'expression de la supplication. Nous voyons tous ces enseignements là pour nous aujourd'hui. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous enseignes à te faire confiance. Et quand le nuage passe sur notre tête et que tout semble être sombre, nous pouvons aussi te faire confiance. Et même dans cette situation-là, tu peux nous apprendre bien des choses. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.